géographie, il est 11h à Paris, 9h en temps universel.
Arthur Ponchelet.
À la une, on vote partout en France. Les bureaux ont ouvert pour les élections législatives anticipées. Reportage avec des Français de l'étranger dans un bureau de vote de Pékin dans ce journal. Les bombardements se poursuivent à Gaza. Nouveaux affrontements ce week-end entre le Hamas et l'armée israélienne. Pendant ce temps, dans l'enclave, les conditions de vie des habitants ne cessent de se dégrader. Dans ce journal également, nous irons au Pérou où on a manifesté pour la marche des fiertés hier. Et puis retour en France, l'État a jusqu'à la fin de la journée pour présenter son plan énergie-climat à Bruxelles. Mais vous l'entendrez, cette date butoir risque de ne pas être respectée. C'est un jour décisif en France. Ça y est, on vote pour le premier tour des élections législatives anticipées. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h, heure de Paris. Ils doivent fermer à 18h, 20h dans les grandes villes. Et on a déjà largement commencé à voter dans les territoires d'outre-mer où la participation est en nette hausse. Plus 10 points en Martinique, plus 19 points en Nouvelle-Calédonie par rapport à 2022. Participation importante également des Français de l'étranger. C'est le cas en Chine, par exemple. Notre correspondant Stéphane Lagarde s'est rendu dans un bureau de vote de Pékin. Reportage.
8 affiches et 7 panneaux blancs dans le hall de l'ambassade de France à Pékin. Les 15 candidats de la 11e circonscription des Français de l'étranger n'ont pas tous envoyé leur matériel électoral. Noémie, venue avec ses deux filles, 5 ans et 2 ans et demi, est parmi les premières à mettre son bulletin dans l'urne.
On a la chance de pouvoir voter et donc c'est important de venir avec mes filles pour leur montrer le devoir citoyen.
Faire son devoir de citoyen dans des élections inédites, cela n'était pas arrivé depuis des années à Alexandre, qui travaille dans le cinéma.
Moi, je n'ai jamais voté. Je suis arrivé en Chine il y a 15 ans, donc j'ai refait ma vie ici. La Chine m'a beaucoup changé, donc j'ai pas eu trop eu le temps de penser à la France, en fait.
15 ans sans vote, aujourd'hui, il fallait voter.
Il fallait voter, ouais. Parce que la France va mal. C'est assez difficile de faire son choix, mais j'espère que je ferai le bon.
Hésitation chez les électeurs devant la gravité du moment. Certains expatriés ont différé leur départ et sont venus à l'urne avec leur valise avant de prendre l'avion. D'autres ont opté pour le vote en ligne, dont se méfie Walter.
Moi, je voulais venir me déplacer, quoi, parce que je suis pas un grand spécialiste de l'ordinateur. Voilà.
À voter.
Malgré ces réticences, le vote en ligne a été privilégié par une grande partie des expatriés. Guillaume Roy, consul général de France à Pékin.
On a 500 votants par voie électronique comptabilisés, ce qui fait un peu moins du tiers de la liste électorale. Ça explique en partie qu'il n'y ait pas beaucoup de monde ce matin. On a reçu beaucoup de procurations au consulat sur les deux dernières semaines.
Et à la mi-journée, le bureau de Pékin comptait 630 votes exprimés, Internet compris, contre 240 à la même heure le 9 juin. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Les élections législatives en France, c'est évidemment à suivre tout au long de la journée sur notre site internet www.rfi.fr. Vous l'avez entendu, la participation est donc importante en France, mais pas en Iran, où elle a atteint un taux historiquement bas. On votait vendredi pour élire un nouveau président, second tour prévu le 5 juillet prochain. Il doit départager le réformateur Mahmoud Pezeshkian et l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Aucune avancée dans les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza. Sur place, les combats se poursuivent entre le Hamas et l'armée israélienne. Dans l'enclave, les conditions de vie des habitants sont désastreuses selon l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Une situation critique, notamment sur les plans alimentaires et sanitaires. C'est ce dont témoigne Louise Wateridge, porte-parole de l'UNRWA dans la bande de Gaza. Elle pointe aussi le problème du manque de carburant qui empêche la distribution de l'aide humanitaire. Écoutez.
Aujourd'hui et tous les jours depuis quelques semaines, les humanitaires sont extrêmement frustrés. Nous ne pouvons pas faire notre travail. Il n'y a pas assez de carburant. Cela signifie plusieurs choses. Le carburant est utilisé pour faire fonctionner les générateurs des hôpitaux, pour fournir de l'eau et bien sûr pour livrer l'aide avec des camions. Sans ce carburant, la réponse humanitaire est donc très limitée et les humanitaires sur le terrain ont vraiment du mal à fournir ce dont les gens ont besoin en ce moment. Comment pouvons-nous fournir de la nourriture, de l'eau, tout ce dont nous avons besoin si non seulement il y a un manque d'approvisionnement, mais une fois que l'aide arrive, nous n'avons pas de carburant. Nous ne sommes pas en mesure de distribuer cette aide, donc. Si nous n'avons pas de carburant, nous ne pouvons pas faire fonctionner les générateurs des cliniques, des hôpitaux et des pompes à eau. Le carburant a toujours été un problème depuis le début de cette guerre, mais plus particulièrement particulièrement en ce moment. C'est une attente quotidienne pour savoir si nous recevrons du carburant, si les autorités israéliennes nous fourniront ce carburant. Et sans ce carburant, la réponse humanitaire risque d'être définitivement interrompue.
Louise Wateridge, porte-parole de l'UNRWA dans la bande de Gaza, au micro de Romain Lemaresquier. La guerre se poursuit aussi en Ukraine. La Russie continue de pilonner l'est et le sud du pays. Cette nuit, des frappes contre une ville de la région de Zaporijjia et des villages de la région de Donetsk ont fait 11 morts. La Russie qui indique ce matin avoir abattu 36 drones ukrainiens, la plupart dans une zone frontalière de l'Ukraine. Au Pérou, on défilait pour la marche des fiertés hier. Plus de 50 000 personnes ont marché dans les rues de Lima, la capitale. Dans ce pays conservateur, 70% de la population est contre le mariage entre personnes de même sexe, d'après un récent sondage. Dans les rues, on revendiquait le droit de la communauté LGBTQI+, en particulier ceux des personnes trans mises à mal ces dernières semaines. Reportage de Juliette Chénion.
Sous un épais ciel gris, le centre-ville de Lima se pare des couleurs de l'arc-en-ciel. Cette marche des fiertés est bien plus qu'une fête pour Luca, un étudiant.
Au Pérou, nous n'avons toujours pas le mariage homosexuel, pas de loi sur l'identité de genre. Donc cette marche, c'est aussi une protestation pour être pris en compte dans les lois comme dans la société.
Dans le cortège, de nombreux drapeaux bleus, roses et blancs, couleurs de la communauté trans dont fait partie Damien.
Dans d'autres pays, tu peux changer de sexe sur tes papiers. Ici, ce n'est pas possible. Il faut faire des tas de démarches et on nous met des bâtons dans les roues.
Conséquence, un manque d'accès à la santé, au travail, à l'éducation. 95% des femmes transpéruviennes arrêtent l'école avant le lycée. Rien à soigner, rappelle plus loin plusieurs pancartes. Une réponse au ministère de la Santé qui a classé début mai les personnes trans comme malades mentales. Maria Paz de la Cruz, membre d'Amnesty International.
Ils ont tenté de revenir dessus avec une résolution, mais le décret suprême, lui, il est toujours là. Ça montre bien au niveau légal et de la société comment on voit ces personnes.
L'organisation de la marche appelle aussi à lutter pour la démocratie en crise au Pérou.
Non seulement on n'avance pas, mais en plus on observe des retours en arrière sur les droits humains en général.
Une menace donc pour les droits LGBT dans un pays où plus d'un jeune de cette communauté sur deux a encore peur d'exprimer son identité. Juliette Chénion, Lima, RFI.
Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán annonce vouloir former un nouveau groupe parlementaire européen. Annonce faite lors d'une conférence de presse conjointe avec le parti d'extrême droite autrichien et le groupe centriste tchèque de l'ex-premier ministre Babiš. À ce stade, il lui manque l'appui de partis de quatre autres pays pour être reconnu comme un groupe par le Parlement européen. Bruxelles ou la France a jusqu'à la fin de la journée pour rendre à la Commission son plan énergie-climat, un plan qui doit intégrer notamment les objectifs en matière d'énergie renouvelable. Seulement voilà, cette date butoir ne sera a priori pas respectée. Il y aura du retard, Simon Rosé, avec comme risque à la clé une possible amende et des blocages d'aide.
Fin avril dernier, la Commission européenne s'inquiétait déjà. Dans une lettre adressée aux autorités françaises, elle estimait que les actions entreprises par Paris ne lui permettraient pas d'atteindre les objectifs fixés en termes d'installation d'énergie renouvelable d'ici 2030. 44% de sa consommation énergétique doivent en être issues. Un délai de 2 mois a été accordé pour revoir la copie. Il expire ce dimanche, mais il ne sera pas respecté, de l'aveu d'un conseiller du ministère de l'Énergie cité par nos confrères de Politico. La situation est embarrassante, car en matière, la France fait figure de mauvais élève, le pays ne respecte toujours pas les objectifs fixés pour 2020 et ne semble donc pas pressé de communiquer une méthode fiable pour remédier à son retard. Paris préfère en effet mettre en avant son parc de centrales nucléaires et les faibles émissions de gaz à effet de serre de son électricité. Jusqu'à présent, l'argument n'a pas convaincu à Bruxelles et la sanction pourrait être lourde. Dans sa lettre d'avril, la Commission brandissait la menace d'un gel d'aide financière, voire une amende, même si dans ce cas, la procédure peut s'éterniser.
Simon Rosé du service environnement de RFI. Un mot de l'Euro de football avant de refermer ce journal. L'Italie, tenante du titre, a été éliminée dès les huitièmes de finale, hier en Allemagne, défaite 2-0 face à la Suisse. Ça passe, en revanche, pour l'Allemagne qui continue sa route à domicile, victoire 2-0 contre le Danemark. Direction donc les quarts de finale pour les joueurs allemands. Prochain match à suivre, c'est aujourd'hui, huitième de finale de la compétition. L'Angleterre affronte la Slovaquie à 16h, temps universel. Et puis pour l'Espagne, il faudra jouer contre la Géorgie. Ce sera cette fois-ci à 19h TU. Il est 11h passé de 10 minutes, ici à Paris. Restez à l'écoute de RFI.